Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Marie Folcon.
Bonjour.
De Jacques Couture.
Bonjour.
Et de Bianca Chéri.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Ça prend beaucoup de force pour être soi-même ». En effet, dans notre société, ceux qui veulent vraiment être eux-mêmes ont beaucoup de difficultés. Moi, ça me fait toujours penser, ce thème-là, à Neo, quand on est dans la matrice au début. Il veut être lui-même et dès le moment où il commence à vouloir s'exprimer, à être lui-même, et là, t'as les agents qui arrivent et c'est la guerre, et puis ça culmine comme ça se peut pas. Donc, et je pense que c'est un très bel exemple de quand quelqu'un veut s'individualiser, quand quelqu'un veut se mettre sous la loi d'exception, il a affaire à tout le système et tout le système va se mettre contre lui parce que c'est pas bon pour le système. Le système veut qu'on soit comme des abeilles, des fourmis, on soit docile, etc. Alors, ce sera notre thème aujourd'hui. Qu'avez-vous à dire pour partir l'émission, les amis?
Bien, tout de suite, moi, j'ai en tête un fait d'actualité là, avec l'expression, avec la grande affiche en lien avec les événements de Paris. Je suis Charlie. Moi, je suis ravi. Justement, là, on prend l'indicatif présent du verbe être, première personne, singulier. Puis, il me semble toute la portée, on ne réalise pas. Tu dis dans ton introduction, Nicolas, oui, pour il y a comme un conformisme social et tout derrière l'idée. Est-ce qu'on vise vraiment à faire en sorte que les gens soient pleinement eux-mêmes ou on veut qu'ils soient conformes à ce qu'on attend d'eux en société? Mais déjà, évidemment, ça parle de liberté d'expression, ce « je suis Charlie-là », s'identifier à ce phénomène-là. Donc, j'ai trouvé que c'était très fort. Je ne sais pas ce que peuvent en penser mes collaborateurs avec qui j'anime, mais ainsi, je trouve que c'est extraordinaire, cette publicité, en quelque sorte, cette façon de favoriser cette liberté d'expression-là, avec ce slogan-là qui a été utilisé. Moi, ça m'a touché particulièrement.
Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait, en fait. Ils se sont montrés qu'ils sont unis, donc, devant ce qui s'est passé. Donc, c'est très bien. Mais il y a un mauvais côté aussi, des fois, quand tout le monde se trouve conformisme. Donc, je trouve pour cette raison qu'ils sont vraiment bien. C'était vraiment bien.
Pourquoi c'est mon tour, là?
Mais pour
comment vous regardez? Ben, je trouve, oui, effectivement, ouais. Je suis d'accord avec toi en partie, là, Jacques, le fameux « je suis », parce que justement, tu décomposes bien là, par rapport à « je suis »,« suis » en tant qu'être. Je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire, le présent, etc. Effectivement, ça met une sorte d'énergie à regrouper le monde, quelque chose vraiment de regroupant, effectivement, c'est ça. Mais je trouve aussi que c'est pas... Parce que la liberté, c'est bien beau, là, mais est-ce qu'on l'a vraiment? Là, c'est juste un coup de... Ouais, la liberté, on est tout seul. C'est frère et tout, mais quand tu regardes individuellement, là, c'est le voisin ou autre, là, c'est pas ça, là. T'sais, c'est comme... moi, je trouve que c'est plus médiatique, là, c'est un peu, pour moi, c'est comme quand même la bullshit. Quand tu regardes vraiment en profondeur là, le sujet, là, le problème de liberté, on n'est pas libre pantoute. Donc, arrêtez de vous la jouer. Là, c'est comme, moi, c'est un peu comme ça. Là.
Ce sont ceux qui revendiquent souvent la liberté. Ils vont mentir aussi aux gens qu'ils aiment. Ils ne vont pas leur dire la vérité. Je pense que ça prend beaucoup de courage. Et ça je reviens à ce sujet, justement. Ça prend beaucoup de force pour être soi-même. Moi, je l'ai vécu dans ma vie très souvent parce que j'ai jamais été très, très, très docile au programme qu'on nous impose dès le secondaire, dès le primaire. Certains auditeurs qui écoutent l'émission savent maintenant que moi, quand j'ai terminé l'université, j'ai dit non, merci, foutez-moi la paix, je ne veux pas travailler, je veux être un artiste à 100%. Et je vous jure que j'ai eu beaucoup de résistance de toutes parts, des amis qui étaient plus mes amis à un moment donné, la famille éloignée, le gouvernement, tous les gens que j'encontrais. J'étais vraiment comme un perdant, un loser. Et j'ai dû me tenir debout par moi-même parce que je savais que c'était la bonne chose à faire. Je savais que c'était le moment ou jamais d'être libre et de prendre toute ma place. Parce que si je ne le faisais pas à cet instant-là, je n'allais jamais le faire. Et je vois maintenant ceux qui n'ont pas fait comme moi, c'est-à-dire la majorité, ils sont brûlés, ils sont fatigués. Souvent, moi, j'ai près de 40 ans et puis je suis plein d'énergie, j'ai pas encore plein de projets. Mais ce n'est pas vrai pour la majorité des gens de mon âge. Et ils n'ont pas été eux-mêmes. Combien de gens que je rencontre, ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont quelqu'un d'autre. Ils ont voulu faire plaisir aux autres.
Ben c'est ça, mais le problème, moi, je te comprends vraiment, parce que c'est ça qui m'est arrivé aussi, là, avec la famille. Mais quand t'es tout petit, là, c'est quand, une comparaison, par exemple, avec mon frère. Excusez-moi. Mais il fallait que je sois comme mon frère, tu sais. C'est dans les résultats scolaires, tu sais, si j'étais pas comme mon frère, je me faisais frapper, etc. C'est servicieux. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de force, mais quand t'as 8 ans, là, et entouré d'adultes, c'est vraiment... C'est comme fou, là, tu dis, parce que tu te demandes pourquoi ils veulent que je sois comme ils veulent que je sois, là, tu sais, moi, c'est pas moi, là, tu sais, c'est comme je veux être artiste, et puis même, je me souviendrai, là, toute ma vie, pour le mariage de mon frère, normalement, il y avait le nom, le prénom, donc je suis sa sœur et tout ça, et il y a le job à côté, genre, là, mais moi, j'étais actrice, déjà, à l'époque, là, et là, d'un seul coup, j'entends le curé dire étudiante, là, tu sais. Mes parents ont dit ça, là, tu sais, là, ça m'a fait waouh. Ils avaient comme honte de moi, là, parce que moi, j'étais l'artiste de la famille. Là, puis, Mais quand t'es petit, là, c'est comme... Ouais, ça prend beaucoup de force dans le sens vraiment... Surtout de la force dans le sens pas du caractère. Oui, OK, le caractère, mais aussi, en ce qui me concerne, c'était plutôt heureusement que j'étais en connexion avec mon âme et que je savais pertinemment qui j'étais, tu sais, en tant qu'être. Et là, ils pouvaient rien me faire à part me foncer dessus physiquement, là, tu sais. Mais tu peux pas me l'enlever, là, ma connexion. Ça fait que personne peut me l'enlever, ça fait que je resterai comme je suis, là, tu sais. Peu importe qu'est-ce qu'on peut me dire, là. Mais n'empêche que c'est sûr que psychologiquement, faut être fort quand même, parce que tu prends des coups, jusqu'à 18 ans où tu dis bye, tu sais, à la majorité, hein.
Moi, mon parcours de vie, ça a été toujours d'être pleinement moi-même, de vouloir ne pas être conforme au modèle ou peut-être de me référer souvent par l'éducation à ce qu'ont été nos parents. Souvent, on dit on prend modèle sur nos parents au niveau souvent professionnel, etc. Ce qu'on fait au niveau métier, nos parents, d'une part, ou ce qu'ils sont, les caractéristiques de la personnalité. Donc, moi, je me suis créé depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit, une identité pour chercher de pleinement moi-même. Puis on dirait que c'était souvent en opposition avec mes parents, moins avec ma mère. Je me sentais plus proche, plus une caractéristique qui ressemble beaucoup plus à elle. Mais au niveau de mon père, j'étais bien différent dans le sens que j'ai connu un père qui était très révolté de la vie, qui ne se sentait pas heureux. Et j'ai voulu évidemment essayer de me façonner une façon d'être qui était à son opposé, ne pas vivre toute la souffrance que lui vivait. Donc,
mais toi, tu étais de Québec?
Oui,
absolument. Québec, la communauté gay n'est pas très grande non plus. Donc
d'une part, mais
ça
là,
prend beaucoup de courage pour être soi-même là-bas.
Oui, c'est vrai que je me sentais dès le départ. Là, c'est sûr que, évidemment, je ne peux pas prendre modèle sur mes parents hétérosexuels, hein, si on parle du sujet, ouais. Puisque ce n'est pas eux qui vont nous inspirer à ce niveau-là. Mais parfois, on peut avoir vécu de l'appui des gens autour de nous. Mais non, c'était du côté de mes parents, je n'ai pas senti d'appui. Mon père, il ne l'a pas vraiment su parce que j'ai commencé à vivre ma vie homosexuelle juste à partir de 19 ans. Mais je le sais depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans à peu près. La première fois que je me suis trouvé, que j'ai vu un homme nu, tout ça, je l'ai senti en moi. Mais après ça, donc, on a chacun notre parcours individuel. Là, c'est à partir donc, de ce qui me définit. Mais en même temps, il y a plein d'autres choses. D'être pleinement soi-même ne consiste pas juste à notre identité sexuelle, évidemment.
Mm-hmm. Ouais. Non. Et parfois, quand on s'affirme de cette façon, on nous considère comme des rebelles, en fait. Parce qu'on dit que nous, on veut s'affirmer. Mais les gens veulent que vous vous conformez aux règles, aux principes qu'eux, ils pensent qui est exactement ce qui est bon. Mais en fait, moi, je trouve que quand on a le courage, la confiance en soi de s'affirmer, c'est bon pour soi et c'est bon pour les autres. Parce que tu peux développer et les autres aussi peuvent voir à travers toi un exemple pour se développer eux-mêmes.
Mais c'est pas toujours évident justement de suivre sa propre voie. Même on a des exemples dans les des grands artistes. Par exemple, Bob Dylan a été une super vedette dans les années, début des années 60, et quand il était devenu un modèle, et soudain, lui, il voulait être lui-même, il a voulu changer de style, et les gens étaient fâchés, et vraiment, il y a eu beaucoup de misère, et j'ai vu qu'il s'était passé la même chose avec Paul Pichet aussi. Ça a l'air, dans les années 80, il avait la grosse barbe, il représentait un certain archétype, et là, lui, il s'est rasé à un certain point, puis il a dit qu'il s'était fait huer par les gens en spectacle, mais il dit, est-ce qu'ils sont venus écouter une barbe? C'est les mêmes chansons, mais ça prenait... Les gens, on dirait la majorité des gens, n'aiment pas le changement, ils n'aiment pas ce qui sort de... Ils les voient dans la télévision, dans les films, c'est beau, tant que ça reste dans la télé, mais quand ils rencontrent quelqu'un qui est vraiment comme ça, ils ne savent pas trop comment agir. Parce que moi, je le vois bien, je n'ai jamais suivi un parcours... Qui est normal, et puis n'ayant jamais travaillé, là je travaille très bien, mais je travaille chez moi, et donc j'ai pas passé par cette étape entre deux que la majorité vont avoir, c'est-à-dire d'aller travailler dans un bureau, passer du temps à apprendre son métier. Moi, on dirait que j'ai pas fait cette étape-là. Mais bon, on va tout de suite faire une pause musique. Non, ça va être une pause avec la chronique de Safia, l'art du bonheur, et on revient après avec ce thème, ça prend beaucoup de force pour être soi-même.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Safia pour l'art d'être heureux et le 9e levier du bonheur scientifiquement prouvé par la psychologie positive. Imaginez, le navigateur, quand le vent fouette son visage et que le bateau fend la mer. Ou l'artiste peintre, quand les couleurs s'organisent sur le canevas et qu'une nouvelle œuvre prend forme. Que ressent-il ? La psychologie positive s'est intéressée de près à ces expériences afin de découvrir le pic des expériences humaines. Le professeur Shitsen Mihai a interrogé des alpinistes, des joueurs d'échecs, des compositeurs de musique, savants et autres personnalités afin de découvrir comment chaque individu peut se construire la meilleure vie possible. Le secret ? Se laisser porter par le courant. Le flow. Littéralement le flux, est généralement traduit par « expérience optimale ». De telles expériences se produisent lorsque la personne s'engage dans une activité à but clair, confrontée à des défis à mesure de ses compétences, mobilisant toute son attention. L'individu est totalement immergé dans ce qu'il fait et inconscient de lui-même. Il en oublie le temps qui passe, les potentielles distractions et même ses besoins corporels. Cet état de flux développe un sentiment de maîtrise pour une activité perçue comme gratifiante. Aussi, la psychologie positive nous propose de développer l'expérience optimale du flux. Cet état désignant l'expérience de la jouissance totale lorsque vous vous perdez dans la poursuite active d'un objectif difficile qui en vaut la peine. À travers elle, nous avons la capacité de profiter de la vie. Même lorsque les conditions matérielles font défaut et même si beaucoup des objectifs n'ont pas été atteints. Car le flow est une récompense en soi, une activité dite autotélique, c'est-à-dire entreprise sans autre but qu'elle-même. Les recherches démontrent que si l'on préfère généralement les loisirs aux activités professionnelles, nous avons 3 fois plus de probabilité d'expérimenter le flux au travail. Car la peine tourne à plaisir, comme dit Alain. Comme celle du musicien, comme celle du peintre. Pas besoin donc d'être un génie, seulement de découvrir ce qui nous motive, ce qui représente un défi à nos yeux. Aussi cette semaine, je vous invite à prendre un temps pour chercher dans votre expérience personnelle vos expériences optimales. Quand vivez-vous l'état de flux ? Identifiez-le dans votre vie quotidienne, à petite ou grande échelle, et répétez-le. Demandez-vous ce qui, dans votre vie, représente un défi qui pourrait entraîner un dépassement de soi. Concentrez-vous sur vos activités et voyez comment y porter davantage d'attention. Comment réduire les activités ennuyantes et transformer un loisir passif en loisir actif. Cherchez la nouveauté et l'émerveillement. Redécouvrez le plaisir d'apprendre. Soyez curieux et audacieux. C'était Safia pour l'art d'être heureux et je vous souhaite de vous laisser porter par le courant de la vie. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur propossurlebonheur.com.
Don't worry, be happy now.
propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Ça prend beaucoup de force pour être soi-même ». Quand on est fort, on ne fait pas d'efforts. Moi, je fais une différence entre la force et faire des efforts. Moi, je dis pas de forcer les choses. Je parle d'une force dans le sens de la constance. Quelqu'un qui est vraiment fort, je pense qu'il va être toujours dans la... Il va être déterminé, il va avoir de la constance, une tranquillité. Tu sais, quelqu'un... On voit ça chez les animaux. Par exemple, un petit chien va japper pour attirer l'attention, alors que le gros chien, souvent, il va jamais japper. Il y a tellement de présence dans son corps qu'il va être plus tranquille, il va être plus relax. On est plus sûr de nous quand on est fort. On a plus de sûreté, on est sécure. C'est toutes des qualités, à mon avis, qui sont extrêmement importantes pour réussir en amour, en affaires, socialement aussi, en amitié, etc. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette panoplie de force.
Jacques, je croyais que tu allais dire quelque chose.
Ah bon, non? Oui. Évidemment.
Tu allais dire quelque chose, oui.
D'accord, je suis d'accord.
Avec un petit décalage. Donc, tout est dans l'approche, évidemment. Donc, d'être pleinement soi-même consiste à être à l'aise avec soi, avec les autres. Est-ce que peut-on l'être pleinement en tout temps? Je pense que moi, je m'expérimente constamment, particulièrement ces temps-ci. On parle beaucoup d'éveil dans le cadre de cette émission-là. Est-ce que moi où je me sens beaucoup mobilisé, sollicité là, avec moi-même, c'est d'être pleinement moi en abordant, en allant vers les gens. Donc ça a toujours été, depuis que je suis petit, on parlait du sujet tantôt, des rencontres, d'aller vers les gars qui m'intéressent, etc. Donc comment bien s'y prendre, comment faire en sorte d'être spontané, d'être naturel dans son approche et avoir donc de me sentir fort de moi-même. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont des bonnes méthodes? Faut-il une méthode?
Je t'avais expliqué déjà un peu l'autre fois la présence, mais c'est sûr que ça dépend de la force. Qu'est-ce que tu veux dire comme force? Parce que c'est sûr qu'il peut y avoir ceux qui vont être forts à travers la personnalité. C'est-à-dire que vraiment, par exemple, s'ils ont été boostés pendant des années par quelqu'un, oui, t'es le meilleur, le plus beau, le meilleur, le plus fort, nanana, c'est sûr que là, le gars, il va se sentir, ouais, je suis fort, je suis confiance. Donc là, il va avoir une certaine confiance en lui, mais en fait, c'est dans le domaine de l'ego, il va être boosté.
Ouais, ça, c'est la force à l'américaine, je dirais, au premier niveau.
Ouais. Mais c'est sûr que ça fait quand même son effet, parce que le mec, il va être capable, là, il va pas être timide, il va y aller, là, il va faire son affaire, il va driver et tout, c'est sûr. Mais après, tu sais, je lui enlève tout, et qu'est-ce qui reste? Mm-hmm. Pas grand-chose. Hein. Donc c'est souvent le contraire, c'est quand même, ça switch de l'autre bord, et là, le mec, il tombe. Mm-hmm. Et puis sinon, il y a la force, la réelle force, là, la confiance en soi, justement, le soi, c'est que là, c'est pas du tout dans la personnalité. Là. C'est vraiment dans le soi, dans l'être. Et là, tu seras pas timide, tu auras hyper confiance en toi. Et même si on te retire ce que tu peux avoir autour, tu auras toujours confiance en toi. Tu peux pas te l'enlever, là.
Peu importe, justement, c'est souvent le rejet qu'on entend que les gens ont.
Parce que même si on te dit, ouais, t'es nul, moins que rien, je sais pas quoi. Ça va juste, j'ai juste rire.
Absolument, ouais, c'est ça.
Donc, et c'est ça la plus grande force, en fait, qu'on peut avoir.
C'est ce que moi, j'appelle la confiance hyperbolique. C'est la confiance en soi, mais au deuxième niveau de la pensée, une confiance métaphysique. Mm-hmm. Et c'est là que je pense que quelqu'un qui a cette confiance, il est tranquille, il est sûr. Tu sais, je veux dire, même tu sais, moi, en surface, je peux être un peu inquiet. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui est très inquiet, mais en profondeur, mm-hmm. j'ai une très, très grande sécurité. Je sens qu'on ne peut rien m'enlever d'essentiel. Je possède rien. J'ai tout ce que j'ai, moi, c'est mes idées et mon œuvre. Et pour moi, ça, c'est une force. On peut pas me démolir très facilement parce que j'ai appris à rire de moi, j'ai appris à me connaître très bien. Donc, on peut pas... quelqu'un qui veut me descendre en me disant des choses superficielles, mais ça ne va pas fonctionner.
Et aussi, pour ajouter, Marie a dit qu'il y a aussi la confiance en soi. Et on pourrait ajouter aussi, quand la personne peut penser de par lui-même, quand il laisse pas les autres penser pour lui, quand il laisse pas les gens agir pour lui. Des fois, les gens tentent... laisse les autres penser à leur place, ils dépendent d'eux, ils se conforment, mais dès que tu peux prendre les décisions de par toi-même, tu peux t'affirmer, tu as plus confiance en toi et tu peux confronter les gens des fois. Des fois, tu arrives à dire, si je suis pas comme toi, là, c'est pas la fin du monde. Donc, moi aussi, j'ai ma place, je m'affirme. Moi, je trouve que vraiment, penser par soi-même, c'est vraiment important dans
Oui, mais il faut quand même avoir un degré, justement, quand tu penses par toi-même, tu sois capable d'être en action.
Oui, donc, de l'affirmer.
C'est ça, de l'affirmer. Et donc, entre penser par toi-même et te mettre en action, c'est deux choses différentes au niveau de la personnalité.
Ouais, et c'est là qu'on trouve le courage. Donc. C'est là le courage prend toute ça.
Sauf que là, il faut vraiment bien te connaître, justement, au niveau du soi, parce que sinon, tu ne peux pas agir. Parce que tu auras des doutes, etc. Il suffit que quelqu'un qui te connaît bien te dise quelque chose, ça intervient. Ouais. Et là, OK, bah, il m'a dit ça, il me connaît bien, et hop, ça y est, ça a embarqué. Et puis là, tu le fais pas.
Parce que la majorité des gens sont pensés. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Ils sont pensés par les autres, ils sont manipulés.
Ah oui,
tantôt, tu as mentionné le « je suis Charlie ». Moi, je pense que c'est une manipulation, que c'est un coup monté. Ça vient des plutocrates en haut qui nous ont lancé de la poudre aux yeux. Et la majorité y croit, ils sont allés manifester. Et on a vu dans la manifestation des gens, des premiers ministres, des gens d'État, de pays qui tuent des gens, comme en Égypte, en Israël, des gens qui sont venus manifester pour la liberté d'opinion, alors qu'ils ne l'appliquent pas dans leur pays. C'est une vraie mascarade.
Oui,
moi,
bien sûr.
N'y crois pas. Quand on a affaire à une mascarade comme ça, de masse, il faut toujours se dire à qui ça profite. Remontons la trace de l'argent. Donc, à qui ça profite?
Toujours les mêmes.
Il y a quand même un côté où c'est quand même assez étonnant, peut-être jusqu'à 3 millions et plus de personnes qui étaient là. Il y a aussi le phénomène social, comme un pays, moi, auquel je suis particulièrement attaché, que j'aime beaucoup, la France. Donc, c'est nos ancêtres aussi. Donc, dans le sens, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? Un pays de révolution, je me dis, révolution des idées, de la pensée et tout, même si, comme tu dis, c'est imposé, c'est médiatique et c'est biaisé, tout ce que ça représente, il y a quand même des gens auxquels ils sont vraiment attachés. Ça a mobilisé des gens, ça ne les a pas laissés indifférents. Ça a fait en sorte que les gens ont voulu, c'est peut-être dans le sens d'être pleinement eux-mêmes personnellement, ça les a touchés en tout cas à un niveau insoupçonné, très fort. Mais moi, ce que je voulais en revenir avec, on parlait des approches et être dans l'action pour aller vers les gens, moi je me dis... j'ai l'impression que, pour ma part, il me faut beaucoup d'audace pour, peut-être comme outil ou comme approche. Je me dis, comme récemment, je me dis, mon audace a été, rapidement, je rencontrais quelqu'un dans un bar café et tout. J'étais avec un ami, puis il y avait une personne à côté. Assez rapidement, il y avait quelque chose de complice dans le regard. Je pense qu'il faut être très attentif aux signes. D'une part, puis là, j'ai dû, grosso modo, en se présentant, la personne avait son téléphone portable à côté. Tout de suite, c'était comme une occasion, comme un prétexte aussi. Tiens, voilà, on échange nos numéros, l'autre, je t'appelle, tu m'appelles, etc. Il y a un point de départ, il y a eu un audace peut-être très sommaire du début, mais il y a eu une approche. Donc, après, chacun y va avec son style aussi, hein.
Ouais, ben c'est vrai, c'est quand je reviens avec Je suis Charlie, c'est vrai que
la balance.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène, quand tu disais, ça touche les gens. C'est vrai qu'il y a un phénomène de, on est frères, on se soutient, on s'épaule.
Oui,
mais l'être humain a une faculté d'oubli innouable. C'est comme,
ça
va partir en fumée, là, ça fait comme un feu de poudre. Là.
Ouais. Puis moi, là, je trouve ça faux. Tous ces gens qui vont manifester retournent chez eux après, continuent à utiliser leur carte de crédit, à voter.
Comme ça, un peu comme ça, là, parce que c'est vrai qu'ils parlent de liberté, mais le moindre petite chose que je peux dire à quelqu'un que je connais, mais tout de suite, il est en méga réaction sur ce que je dis. Alors quand tu vois ça, excuse-moi, la liberté de parler ou de communiquer quelque chose, donc c'est plutôt logique si tu le vois que un par un, là, on ne peut pas y arriver là, dans la liberté d'expression, imagine. En groupe, là, c'est
comme... Plus un groupe est grand, moins il y a de l'intelligence. Plus une masse de gens se mettent ensemble, moins ils sont intelligents.
Ouais,
c'est toujours
beau,
les petits groupuscules qui ont beaucoup d'intelligence, de rapidité, qui sont capables de penser par eux-mêmes, parce qu'une grande masse ne pense pas par elle-même. Il y en a qui ont comparé ça au 11 septembre, mais justement, on sait bien que le 11 septembre, c'est un coup monté, et puis que finalement, l'État s'en est servi pour ajouter des lois qui ont brimé la liberté. Donc, ce qui s'est passé... Oh, peut-être que maintenant, les gens pensent que ça va aider la liberté, mais je crois que c'est le contraire. Ils vont imposer des lois pour avoir le droit d'aller encore plus profond dans la vie privée des gens, pour savoir c'est qui les terroristes, etc. Donc moi, je suis toujours très critique à envers ça. Ce n'est pas des vrais phénomènes. Moi, je crois à des petits phénomènes de communauté. Des communautés, par exemple, qui vont décider d'être eux-mêmes, de sortir de la civilisation, d'aller vivre sans électricité. Ça prend de la force, il y en a. Il y en a très peu, mais ces gens-là, on voit qu'ils ont une force. Ils sont capables de laisser l'argent, de ne plus utiliser l'électricité. Ils sont obligés de tout repenser. Et moi, je trouve ça admirable. Alors que la majorité est plutôt endormie. Et puis finalement, elle ne veut pas non plus se réveiller. Ils sont confortables, ils sont dans leur petit... Ils vont peut-être sortir, taper sur des casseroles ou faire comme une petite manifestation, mais en réalité, ils sont très, très conformes. Et dès que quelqu'un d'autre sort du nombre, ça va être les premiers à leur couper la tête. Nous allons faire une pause musicale avec le groupe Stroma et la chanson Formidable. Puis on revient après la pause avec ce thème. Ça prend beaucoup de force pour être soi-même. Formidable.
Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Ça va ce travail?
Ça va.
T'es un peu fatigué ou quoi?
Ouais.
Je suis un grand fan, hein.
Merci beaucoup.
Je tenais à te le dire. Et t'as eu une soirée agitée ou quoi?
Un peu, ouais.
Ouais, t'es déglingué là.
T'inquiète, ouais, un peu quand même, ouais. J'ai besoin de...
Ouais.
Ouais, ouais.
Tu veux qu'on te dépose chez toi?
Non, ça va, ça ira, ça ira.
Ok, ça va.
Ça va?
Allez, courage. Hein.
Hé, hey, petite! Oh, pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sain, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
De retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Ça prend beaucoup de force pour être soi-même ». En effet, ça prend énormément de force pour être soi-même parce que souvent, on a peur de blesser les autres en étant nous-mêmes. Moi, je sais bien que ma personnalité a tendance à être très radicale, très forte. Et j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça, des gens qui se sont éloignés de moi. C'est pas toujours évident d'être totalement soi-même. Et parce que c'est comme il y a comme un certain équilibre qu'il faut avoir dans la société parce que je pense pas qu'il faut faire de compromis. Moi, je suis de ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur le fond. Mais je pense que dans les petits détails, des fois, c'est nécessaire parce que sinon, on se ramasse seul. Moi, j'ai pas fait de compromis pendant très longtemps et finalement, je me suis vraiment ramassé toute seule dans un coin. Pas de travail, pas d'argent, pas d'amis, personne, pas de téléphone. Sauf que j'étais heureux, j'avais tout mon temps pour créer. J'ai vraiment beaucoup créé, mais la vie sur Terre, je pense que c'est pas juste une petite parcelle. Je pense que pour apprécier la vie sur Terre, moi, ça me prend aussi des amis. Et depuis ce temps-là, j'ai enrichi ma vie comme un jardin. J'ai planté et je me suis équilibré. Et je continue à être moi-même, mais parfois, ben, je vais peut-être pas dire ce que je pense. Je vais faire attention.
Ça doit aussi dépendre peut-être du type de gens avec qui on est, quelle a été l'éducation de la personne, sa culture et toutes ses origines et tout. Il y a une grande variété. Je parlais tantôt de la France. Je pense que c'est très. Si on regarde juste une émission comme on n'est pas couché, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures avec ici. Les gens sont capables de s'exprimer, de se balancer toutes sortes de trucs, de se dire vraiment ce qu'ils pensent, en tout cas beaucoup plus qu'ici. Ils semblent pas avoir trop peur de blesser. Pourtant, ils sont issus également d'une éducation judéo-chrétienne en France, mais j'ai l'impression qu'ils ont plus. Il y a souvent une culture plus confrontante, un petit peu plus violente verbalement, mais. Ça m'inspire beaucoup, je trouve ça bon, je trouve ça stimulant dans la conversation, dans la manière d'être avec les autres. Je trouve qu'ici, on est trop doux parfois au Québec. Puis, ouais. Mais moi-même, par rapport à mon éducation, on a dû me dire quand j'étais petit, non, dis pas ça, ça se dit pas, tu vas blesser la personne va être mal à l'aise. Donc, c'est toutes ces choses-là à chaque fois que j'ai en tête quand j'exprime mes idées ou ce que je pense des autres.
C'est drôle parce que justement, quand les Américains parlent des Canadiens, ils parlent toujours de « oh, je me m'excuse »,« oh, sorry ». C'est comme toujours « on s'excuse ».
Constamment.
Oui, les
c'est
Canadiens.
Une façon. Ah oui,
c'est la perception que beaucoup d'Américains ont des Canadiens.
Okay.
Anglais.
J'avais vu ça dans un show d'humour où ils riaient de nous en disant « oh, sorry ».
En Angleterre aussi, je pense que ça fait partie de la culture peut-être un peu plus anglo-saxon, là, dans cette façon d'être. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai, ils osent pas. Tu sais, c'est ça, je pense, ils osent pas. Mais il n'y a pas tellement longtemps, j'ai entendu une émission radio, justement, où carrément, ils parlaient de l'hypocrisie, quoi. Et tout le monde disait ça, là, que c'était vraiment très hypocrite, parce que la plupart des temps, les gens ne disent pas ce qu'ils pensent, contrairement, justement, aux Français, comme tu disais. Mais c'est pour ça qu'on nous prend souvent pour des grandes gueules, parce qu'on est capable de dire ce qu'on pense. Mais c'est sûr que dans une émission télé, c'est quand même très différent, là, parce qu'ils sont là pour ça, là, donc c'est quand même pire.
Pour
donc,
faire
c'est,
une représentation aussi, ouais,
c'est une représentation vraiment tu sais, très forte de ça.
Amplifié.
Et dans la rue, ouais. Mais c'est vrai que, comme tu disais, Nicolas, bon, bah, si t'es vraiment toi-même et puis que tu balances tout comme ça, c'est sûr qu'après, t'as plus personne. Bon, moi, ça m'est arrivé, mais. Moi, je me suis entourée de mes meilleurs amis. J'en ai deux, puis ça me suffit. Là, tu sais. Mais c'est vrai que aussi, je tiens compte quand même de la personnalité. Si j'ai une petite nana devant moi, toute fébrile, et puis toute, c'est comme super timide, et puis je n'ai pas commencé à lui balancer tout mon truc, tu sais, en lui disant la vérité, si elle me demande est-ce que tu trouves que je suis intelligente, et puis si elle est con comme tes pieds, j'en sais rien. Tu vois. Je ne vais pas lui dire ben non, t'es con comme tes pieds. Je ne vais pas lui balancer ça comme ça, là, c'est sûr. Si je vois qu'elle tremble, et puis bon, voilà. Ça. Donc, je vais quand même avoir une certaine diplomatie, même si je ne suis pas du tout diplomate, mais je vais essayer quand même, parce que je vois que, mon Dieu, elle va s'écrouler si je lui dis ça, ouais, c'est sûr. Donc, il faut une mesure, là, comme tu disais. Mais la plupart du temps, bah, je le dis, quand je vois la personne est suffisamment... ça, c'est l'extrême que je prends, mais parce que c'est ça, là, c'est la personne est vraiment en train de trembler devant moi, là. Mais sinon, la plupart du temps, non, je dis ce que je pense. Et puis, ça ne te va pas, bah, c'est à toi, c'est pas à moi. Si t'es blessé, c'est parce que t'as une image de toi là, qui ne matche pas avec ce que je suis en train de te dire. Bah, tant pis.
Mais le grand danger, c'est qu'avec le temps, si tu dis pas ce que tu penses et tu n'es pas toi-même, tu finis loin de toi-même. Un peu comme si je veux lancer une fusée dans l'espace, sur la Terre, si elle a un degré de croche. Quand on va être rendu à 3000 années-lumière, elle va être à des millions de kilomètres.
Ouais.
À côté de sa voix. Et ça, je trouve ça important. Ça paraît pas beaucoup quand quelqu'un est jeune, mais quand quelqu'un arrive à 40, 50 ans, puis il s'est toujours menti, il n'a jamais été lui-même, et ça commence à être difficile. Je le vois des gens qui avaient le rêve, par exemple, d'être des danseurs, des rêves d'être un ci et ça, et puis finalement, ils sont complètement à l'opposé parce qu'ils ont voulu faire plaisir à leur père, à leur mère.
Ouais, ça fait des gens vraiment pas heureux du tout, là, ça c'est clair. Mais en plus de ça, c'est des relations qui sont pas justes entre personnes. Comment veux-tu que ce soit une réelle communication avec une personne? Tu vois, si tu commences à déformer ce que tu vas dire parce que tu as peur que ceci, cela, tu vas pas dire réellement et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Puis au bout de 10 ans dans les coupes, tu sais, d'un seul coup, tu découvres ce que l'autre pense vraiment. Ben là, tu dis, ah, je te connais plus, etc. Ben ouais, mais chérie, ça fait 10 ans qu'en fait, dans ma tête, c'est non. Puis je te dis oui parce que j'ai peur de te blesser. C'est comme ça partout dans toutes les relations. Là. C'est complètement faussé, les relations. Complet. Là. Ça n'arrête pas. Là, tous les jours, j'en vois, là.
Moi, je pense, comme tu as dit, il faut savoir dire ce qu'on pense. Mais il faut aussi penser qu'il y a une limite, en fait. Pour ne pas blesser la personne, il faut avoir une limite. Donc, si on peut dire non avec un sourire, la personne va comprendre. Mais si on est sec, on dit non comme ça, là, ça va blesser la personne. Dès qu'on a une limite, je pense,
On peut s'affirmer. C'est sûr, ça dépend de la manière dont tu le dis. C'est ça que tu veux dire, la manière. Ça, c'est clair aussi. Tu sais.
Il ne faut pas dire tout ce qui se passe par la tête de n'importe façon. Puis comme je peux m'affirmer, je peux m'exprimer, la liberté d'expression, on le dit comme ça. Mais dès qu'on sait ce qu'on doit dire, la limite qu'on doit franchir, qu'on ne doit pas franchir, je pense que...
Mais je trouve aussi que c'est vraiment... Ça génère des situations merdiques, comme je les appelle, mais tout le temps. Quoi. Je veux dire, même pour... bon, tu m'appelles, oui, alors on se rend compte, on s'échange les téléphones, mais pourquoi tu me donnes ton numéro pourquoi tu prends mon numéro si tu ne veux pas m'appeler? Tu sais, c'est comme, hello. Et puis c'est tout le temps comme ça. Tu sais, c'est tout le temps, là. C'est tout le temps.
Oui, mais c'est ce sujet-là, mais je pense que ça va dans le sens aussi de la considération qu'on a pour les gens. Selon si c'est une personne qui nous est chère, on va être plus attentif, on va peut-être avoir un style plus doux, plus... comme tu dis, on dit non, mais en même temps, on voudra pas tout faire pour... On cherchera pas à blesser volontairement, évidemment. Mais encore une fois, voyons, j'en perds mes idées aujourd'hui, mais c'était bon pourtant, ce que j'étais pour dire en lien avec tout ça.
Mais parfois, il faut dire aussi les vraies choses. Hein. C'est toujours une limite qui n'est pas toujours claire. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un dans ma vie avec qui je dansais, mais qui était obèse. Et finalement, ça m'agressait. J'ai dit, t'es grosse, va maigrir. Puis reviens me revoir quand t'auras maigri.
Est-ce que tu te
souviens? J'étais pas méchant, j'ai dit la vérité. Puis elle est revenue après 2 ans. Puis, je veux dire, elle avait pas maigri, mais elle s'est inscrite à mes activités. Puis elle est toujours là, tu sais. Donc, mais on dirait qu'elle est contente que j'ai dit la vérité parce que jamais personne qui va adresser la vérité. Des fois, il y a des gens comme ça qui sont des cas extrêmes. Là, je parle de quelqu'un vraiment que c'est tellement est tellement grosse que c'est dangereux pour sa santé. Puis personne n'adresse le sujet. On tourne autour du pot. Mais moi, je pense que j'ai établi cette relation-là beaucoup avec mes clients. Si je leur dis la vérité, des fois, je dis c'est vraiment nul ce que tu as fait. Ton site est merdique. Là, ils sont un peu surpris au début, mais après ça, ils sont hyper contents puis ils reviennent. Il y en a que j'ai insulté comme ça. J'ai dit, ben là... c'est vraiment de la merde. Si tu veux pas changer la base de ton site, il va travailler avec quelqu'un d'autre, il va travailler avec un technicien, il va faire exactement ce que tu veux. Puis là, il me revient, il dit, ah non, je veux travailler avec toi justement parce que je sais que tu vas me dire la vérité. Ouais. Donc, il y a une force aussi, à un moment donné, il faut aussi dire les vraies choses. Ouais. Et c'est là que ça prend cette force tranquille dont je parle dans cette émission aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de perdre. J'ai pas peur de perdre mes clients. Je sais que si je le perds, de toute façon, il était pas au bon endroit au bon moment. Là, parce que tu viens pas voir quelqu'un comme moi pour faire un travail de technique, de technicien. Comme quelqu'un, je donne souvent cet exemple-là. Tu vas dire à quelqu'un d'aller balayer. Puis la personne, une fois qu'elle a fini de balayer, elle reste là avec le balai. Il faut que tu lui dises d'aller le mettre dans l'armoire. T'sais. Alors, s'il était un peu proactif, elle saurait qu'après avoir fini de balayer, tu vas le mettre dans l'armoire. Mais non, je trouve que la majorité des gens sont vraiment pas proactifs. Donc, il faut tout leur dire comme des enfants. Et puis, tu vois, moi, c'est une des raisons pourquoi je veux pas d'enfants. Sur cette planète, je trouve qu'il y a tellement d'enfants. Puis les adultes qui ont des enfants sont encore des enfants. C'est ridicule. Commençons par éduquer les adultes, les éducateurs. Puis là, eux autres, ils pourraient éduquer leurs enfants. Mais si les éducateurs sont encore des gens d'adolescents qui n'ont pas fini leur crise puis qui ne savent pas qui ils sont, je trouve que ça fait une société très, très dangereuse parce que finalement, qui va éduquer les enfants? Est-ce que j'ai même l'impression qu'on arrive à un point de l'histoire où ça va être les enfants qui vont être des adultes, qui vont dire aux adultes, on parle des enfants indigo, les enfants teflon, les enfants cristal. Ces enfants-là ont une grande sagesse. Ils sont capables de dire aux adultes, gars, t'es un menteur, tu me mens. Fais pas ci, fais pas ça. Mais si l'adulte est un enfant, moi j'ai souvent vu ça, ça donne quoi? Ça donne souvent les enfants ritalins. L'adulte, ben, il pense que c'est l'adulte, puis il donne le ritalin à l'enfant pour se soulager la conscience, pour pas entendre ses pensées. Mais c'est ridicule.
Oui, c'est ridicule, effectivement. Là, t'as bien tout résolu.
Nous étions suspendus.
Ça parlait tellement longtemps qu'on s'était endormi.
On était suspendus à tes lèvres.
Mais si on reste dans le sujet justement de ces enfants, moi j'en ai rencontré des enfants extraordinaires qui sont super intelligents. Quand ils sont eux-mêmes dans le système aujourd'hui, ben, on leur dit de fermer leur gueule. On les met dans un coin ou encore pire, on leur donne du ritalin. Et puis ça, c'est ça que je trouve moi très dangereux. Parce que c'est comme des bombes ambulantes qui vont éclater un jour. Ces enfants-là vont être fâchés quand ils vont être des adultes. Non, j'ai encore parlé trop long.
Ah oui, t'as fini parce que je sais pas.
Non, il nous reste encore une minute.
Ah, là, bon, c'est ça, on se demandait là, où nous en étions. Donc,
on était commencé sur la peur de blesser.
C'est vrai que c'est... Ouais, ben, c'est ça la peur de blesser. Non, mais là, j'ai perdu une
minute. Ouais, vas-y.
Blablabla. Je sais même plus, là, à force de rire, je sais même plus ce que je voulais dire. Non, mais par rapport à, oui, aux énergies, moi, je reviens justement à, aux jeunes enfants, là, qui sont des bombes à retardement. En plus, ça, c'est vraiment excessivement dangereux pour eux, parce que l'énergie, énergétiquement, là, dans le corps, ça développe des maladies, en fait, à ces gens, ces enfants-là, quand justement, ils utilisent mal leur énergie en tant qu'être pour justement créer, devenir artiste, etc. Et que là, ils sont brimés, et puis il y a de la violence qui s'installe, et là, ils vont vraiment détériorer leur organisme. Donc, si vous avez un enfant comme ça, il faut vraiment le laisser aller vers ce qu'il veut faire, parce que sinon, il va développer des maladies, quoi.
Bon, ben laissez-le aller. Pendant ce temps-là, on va faire une chanson, on va mettre une chanson de Mossy et Abby, qui s'appelle « Être moi ». Et on revient après la pause avec ce thème. Ça prend beaucoup de force pour être soi-même.
Je garde confiance en toi, mon ange. Tu veilles sur moi. J'aurais besoin que l'on me prenne dans les bras. C'est si difficile d'être moi. Pourquoi on me pointe des doigts? J'aurais seulement voulu être fort comme toi. Je garde confiance en toi, mon ange. Tu veilles sur moi. J'aurais besoin que l'on me prenne dans les bras. Je garde confiance en toi, mon ange. Tu veilles sur moi. J'aurais besoin que l'on me quitte.
Reflète quand je me vois dans la glace. Et quand je repense à tout ce que j'ai vécu, ça m'embarrasse. J'ai le cœur gros. Mais non, c'est pas ça qui remplace le fait que j'ai encore de la misère à trouver ma place. Aujourd'hui je demande de l'aide parce que j'ai plus rien à perdre. Ma tête se remplit de mots et de visions acerbes. En bifort, je le dis, la vie c'est de la merde. Si j'avais un souhait, ce serait qu'un autre soit dans mon reflet. Y'a pas de normes, faut que tu performes dans un monde où la beauté vaut deux fois plus que ta personne. Les gens se basent sur des idéaux superficiels, dictés par ceux qui nous tirent par les ficelles. On rêve tous que nos vies soient parfaites, s'il te plaît, ouais. Il faut que tu retires ton doigt de la gâchette, la vie est belle quand t'essayes de faire de quoi bon. Mais je comprends que la tristesse te cruche comme du poison. Que l'on me prenne dans les bras. C'est si difficile d'être moi. Pourquoi on me pointe du doigt? J'aurais seulement voulu être fort comme toi.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Ça prend beaucoup de force pour être soi-même ». Bon, il y en a beaucoup d'éditeurs, je pense, qui sont en train de se dire « Bon, c'est bien beau, là, on est très théorique depuis le début, mais qu'est-ce que je peux faire pour justement être plus moi-même ? » On pourrait peut-être chacun d'entre nous donner quelques trucs. Moi, le truc que moi j'ai trouvé, c'est de me suffire à moi-même, d'être indépendant. Parce que plus on est indépendant au niveau financier, quand tu as ton appartement, quand tu as tes choses à toi, c'est plus facile de dire aux autres, bon, OK, il y a une limite que tu peux pas franchir. Parce que quand on vit, par exemple, chez nos parents, ou qu'on vit, mettons, on est en couple et puis que c'est l'autre qui gagne tout l'argent, c'est difficile des fois de dire ce qu'on pense si on a peur de se faire mettre à la porte, peur de se faire laisser. Donc, pour moi, le truc principal pour être moi-même, c'est l'indépendance.
Et... Ah ouais? Bon, OK. Moi, mon truc pour être moi-même, c'est la présence, la conscience. Je zappe le mental avec ça, les égos. Donc, tout ce qui est doute, etc., timidité haute, il n'y a plus. Il y avait, mais il n'y a plus depuis 18 ans à peu près. Et donc, c'est ça. Plus vous êtes dans la conscience, plus vous êtes dans l'instant présent, dites ce que vous pensez au moment où vous le pensez et faites ce que vous êtes en train de penser, dire. C'est vraiment un alignement qui doit se faire parce que la plupart du temps, les gens, ils pensent une chose, ils font autre chose, ils disent autre chose. Et trois complètement décalés. Là, et puis, ça, vous ne pourrez jamais avoir confiance en vous comme ça. Ça, c'est clair. C'est ça, mon truc.
Moi, je pense c'est avoir l'assurance. Dès que vous avez l'assurance en vous, vous allez... vous affirmez. J'ai un petit truc, c'est la technique de l'élastique. Donc, à chaque fois, les gens ont tendance à oublier qu'est-ce qu'ils ont de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà de bien. Et ils pensent immédiatement, dès qu'ils ont un problème, au malheur. Ils vont faire quelque chose de mal. Donc, à chaque fois que vous allez penser mal, prenez l'élastique. Un petit claquement de l'élastique va vous faire remémorer les bonnes choses que vous avez faites.
Ou dans le sens de
tu te le fais claquer sur, une, sur la cuisse?
Mais, sur la ça dépend de vous,
c'est
en
métaphorique?
Fait. Métaphorique, en fait.
En fait, ça te met dans l'instant, si tu te mets ça dans le visage, l'élastique, là, tu es là.
Est-ce que Bianca, c'est se remémorer quand on a bien réussi à être pleinement soi-même? C'est un peu ça, en quelque sorte?
Oui, en fait, à chaque fois, donc, si vous essayez de faire cette petite technique-là, donc, vous allez vous remémorer qu'est-ce que vous avez fait de grand, de beau. Donc là, vous allez reprendre assurance en vous.
Avec le claquement?
Ben oui, oui. Ben, en fait, vous voulez l'utiliser de façon théorique, de façon pratique, c'est à vous de voir. Okay. Donc, quand vous le faites, vous allez remémorer à chaque fois ce que vous avez fait de bien, de bon. Et avoir cette assurance-là va vous aider à vous affirmer. Et avoir cette force-là qui va vous aider à être heureux.
Moi, j'irais sous l'angle de se décrire, une sorte de description de soi-même aux autres. Je vois tout de suite mon exemple concret là, de mon homosexualité. Donc, je dis, si je parle pas de ce côté-là de moi-même, comment je pourrais vraiment être en relation avec les autres? Donc, j'avais expérimenté ça au début, par exemple, juste avec ma mère, avant que je lui en parle, que je lui dise, il y a toujours comme un volet à sortir du garde-robe, hein, vous savez bien l'expression. Donc, je me suis dit, j'ai réalisé que avant de lui parler de cette caractéristique qui est assez fondamentale, je vous dirai. Donc, comment j'aurais parlé que de la pluie et du beau temps? Donc, je me suis dit, nécessairement, je dois parler aux gens avec qui je veux avoir une dynamique relationnelle, être en lien véritable. Ben, nécessairement, je dois me décrire moi-même, dire qui je suis en parlant de cette caractéristique-là. C'est drôle que j'utilise le mot caractéristique deux fois, mais en tout cas, c'est, je ne sais pas trop comment dire, ce fait qui fait que je suis pleinement moi-même. Les gens qui me tous les gens qui me connaissent, qui sont amis avec moi, le savent nécessairement. Je ne pourrais pas être un demi-ami en disant, ben là, je suis quelqu'un quelconque, qui les gens ne savent pas mon orientation. Je ne me serais pas à l'aise avec eux parce que je ne parlerais qu'une d'une partie de moi. Là. Je ne sais pas trop comment...
J'aime bien quand tu dis que je suis quelqu'un de quelconque.
De quelconque,
c'est excellent. Hein. Si tu n'es pas homosexuel, tu es quelconque.
Oui, mais c'est ça.
Merci.
Merci, Jacques.
Non. Mais on pourrait dire comme peut-être on ressemble un petit peu plus déjà à Monsieur Tout-le-Monde. Si, quand on ne se réfère pas à ce qui nous caractérise d'une façon bien précise. C'est ce que je veux dire. Okay. Peu importe quelle est notre caractéristique. Hein? On peut être un grand penseur, on peut être un grand créateur, on a chacun notre style.
Je pense que dans le sens où tu vas, moi, j'aime bien l'idée de savoir qui on est. C'est bien se décrire à soi-même, premièrement, parce que si on veut se décrire aux autres, il faut savoir qui on est. Et moi, je l'ai fait beaucoup dans mon travail d'écrivain, d'artiste. Hein. J'ai beaucoup écrit. Et j'ai écrit mes rêves, j'ai écrit mon journal, je fais des livres aussi. Donc, pour moi, c'est toujours un rappel de ma vraie personnalité. Et dans mes livres, surtout dans mes derniers, je vais tellement plus loin. Et je me dis, je suis le Dieu vivant. Et puis, je vis comme ça, moi. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas évident parce que la majorité des gens vont mal comprendre cette affirmation. Ils vont le voir au premier niveau. Mais ça m'aide beaucoup, moi, de me le rappeler dans mes livres. Et des fois, je lis mes propres livres et j'en ai des frissons tellement que c'est puissant. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Je me rappelle à moi-même qui je suis vraiment. Parce que c'est vrai que des fois, je suis plus que je pense. Des fois, je pense plus que je suis. Et c'est comme un mouvement de balancier. C'est sûr qu'il faut tendre au je suis. Et c'est évident, mais c'est pas toujours évident parce que la personne revient des fois. Le mental revient des fois. Et puis parce que le mental est quand même nécessaire pour vivre dans la société aujourd'hui. On peut pas complètement le tuer comme dans la philosophie hindoue, par exemple. Parce que ceux qui tuent leur mental, ben, ils doivent aller comme le Bouddha dans la montagne, sortir du monde. Et moi, c'est pas vraiment mon but. Je veux être moi-même, ici même, dans la société, dans la culture occidentale, sans nécessairement faire un compromis tellement compromettant que j'aurais honte de moi-même.
Sans doute un autre truc également, c'est d'aller vers les gens spontanément. Si c'est quelqu'un qu'on désire beaucoup, là on va se dire, bon, on a une grande charge émotionnelle en nous, il nous fait cette personne-là, l'individu devant nous, peu importe son sexe. Donc on va dire, on va se sentir comme démunis. C'est quoi cette histoire-là? Plutôt que justement, il s'agirait de parler de quelque chose peut-être d'anodin pour commencer, ou il y a de quoi un élément peut-être déclencheur, quelque chose qui nous amène, qui amène une curiosité chez l'autre. Donc, je pense qu'il faut y aller tes points en disant, oh, tu es la personne la plus extraordinaire, la plus belle, la plus désirable que j'ai jamais vue. Nécessairement, on pourrait avoir ce style fantaisiste-là, oui, mais en même temps, je pense pas que c'est l'approche à avoir. Parce que sans doute que la personne qui, si on met toutes nos cartes sur la table au premier abord, la personne va s'enfuir en courant, peut-être.
Tu crois?
Je ne sais pas. Je n'ai pas trop expérimenté ce côté-là encore.
Si c'est ta personnalité, je t'ai souvent vu dire genre que t'es belle, mais tu sais, on dirait que les gays peuvent dire ça aux femmes plus facilement. Ah, t'es donc bien belle.
Ben oui, c'est pas pareil.
Puis tous les autres hommes n'osent pas le dire. Puis,
ben oui, parce qu'il n'y a pas la barrière sexuelle avec les homosexuels. Moi, quand je vais au Sky, là, tout le monde est là, tous les gars.
Collègue de travail qui dit de toute façon, il dit toi, tu complimentes en temps réel, en continu. Mais il savait que j'ai beaucoup plus de collègues femmes dans mon milieu de travail que d'hommes, mais il m'a souvent fait cette boutade ou ce commentaire-là. Il dit ben toi, de toute façon, il dit tu complimentes pratiquement toutes les collègues. Là. T'arrêtes pas de revanter les mérites.
Être contente,
et tout.
Hein?
Oui, oui.
Ah ouais.
On dit en anglais flattery will bring you everywhere.
Ah bon, ben
la
ça,
flatterie
ça
va te mener partout.
Bon, ben, je suis ravi de l'entendre aujourd'hui. J'aime bien voyager, justement.
OK.
Puis on continue dans ce sens? Est-ce que tu aimes faire des flatteries? Qui aime faire
Bien
des flatteries?
Bien, qu'est-ce que t'en penses?
C'est la vérité aussi, parce que c'est des flatteries juste pour faire flatterie ou te manipuler la personne, parce que là, ça aussi, encore un piège.
Je le pense vraiment à chaque fois.
Encore une fois plus.
Je le pense vraiment. Puis
parce que ça, c'est une game, là, souvent, pour avoir, même inconsciemment, les personnes vont te flatter pour avoir autre chose derrière ça. C'est que des games, là, généralement. T'sais.
Non.
Mais il faut savoir faire la différence entre les bons flatteries et les mauvais. Là,
si réellement tu le penses, c'est à ce moment-là.
C'est comme un commentaire coloré de tous les jours, un vêtement, quelque chose qui attire mon attention, une manière d'être, une coque que je trouve splendide. Elle est resplendissante tout le temps, toujours impeccable dans ses vêtements. Il y a des gens qui ont le sens du style. Moi, ça me touche, ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour une femme d'avoir plusieurs styles vestimentaires, etc., qu'un homme. On a un peu plus un standard. Hein. Il n'y a pas autant de choix de variété de vêtements. On a des chemises, des pantalons, les hommes, des costumes. Mais après ça, hein, un t-shirt, un polo. Après, on a fait le tour vite, mais les femmes, vous pouvez avoir beaucoup plus. Une petite robe, une jupe et tout, toutes sortes de trucs affriolants.
Oui, des fois, quand j'entre dans les magasins, je suis un peu jaloux. Là. Ouais, tu sais, t'as 75% du magasin qui est réservé aux femmes, puis un petit 25% de morceaux qui sont toutes les mêmes.
Dans le fond, à l'arrière du magasin, c'est moi. Hein? J'aime pas magasiner, ça tombe bien.
qu'il y en a
pour moi, c'est plus facile à choisir. Hein, quand vous choisissez quelque chose, bon, bah, vous ne vous prenez pas trop la tête là, pour choisir. Hein.
Je voulais revenir sur l'idée de la force. Là, de la... Pour donner une image, par exemple, le soleil. Par exemple, la force du soleil, sa force, c'est lui vient qu'il est centré. C'est une force de centration sur lui-même et ça lui permet de rayonner. Donc, quand on veut être fort, à mon avis, il faut vraiment se centrer. Quand toi, tu dirais peut-être être conscient, être dans la conscience, mais être vraiment centré, c'est pas quelque chose qui est très habituel dans le monde aujourd'hui. Je trouve que la majorité des gens sont très décentrés, sont très éparpillés. Mm-hmm. Donc, si moi, j'avais un conseil à donner avant de finir l'émission, c'est très centrez-vous donc ces semaines. Essayez de comprendre c'est quoi qui fait que le soleil peut
se
centrer.
C'est ça que je disais tout à l'heure par rapport à tu penses quelque chose, tu dis autre chose et tu fais autre chose. Si tu es centré, tu vas dire ce que tu penses et faire ce que tu dis. Ça, déjà, faites ça, là, vous allez voir, il y aura un gros changement dans votre vie, ça c'est sûr.
Ce dernier conseil, chérie, avant de partir.
Ben, je vois bien quand.
Bianca. Bien d'accord. Bon,
les deux, c'est bon. Les deux, c'est bon. Mais quand même, je pourrais dire la même chose, en fait, que les gens essaient, en fait, de se retrouver en eux-mêmes. N'essayez pas d'aller chercher partout. Mais dès que vous savez c'est quoi vous cherchez, c'est quoi que vous voulez, donc centrez-vous et vous allez trouver le bon chemin.
Ben, justement, ben,
le
après,
mot de la fin avec Jacques.
De s'aimer pleinement, démesurément, puis de le dire aux autres aussi qu'on s'aime.
Allez-y à fond, mes amis.
On vous aime.
Je vous adore.
Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Probablement que les autres aussi vous souhaitent
bonne
une
semaine.
Merci. Oui, merci au plaisir et à la prochaine.
Merci d'avoir été à l'écoute. Soyez vous-même. Et puis, venez écouter la fin de l'émission sur Propos sur le. Non, venez écouter l'émission. Et réécouter l'émission.
Et je t'aime, Nicolas, je t'aime.
Alors, venez écouter l'émission sur Propos sur le bonheur. Et on vous laisse avec la chanson de Félix Leclerc, Le Petit Bonheur.
Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tant dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, où mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti, sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui, j'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris, enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.